Le lingot a perdu 80 euros à 9710. Le Napoléon lui perd 20 centimes à 55,90. Et à Londres, l'once de métal fin perd 40 cents à 347,85 $. Je vous rappelle que le CAC 40, lui, est en petite hausse de 0,15%. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
La Bourse, en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse. Ou sur votre téléphone au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
14h03 sur France Inter, l'heure de retrouver Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
Merci Sandrine et bonjour à tous. Aujourd'hui, 100 ans après sa naissance, il entre dans la bibliothèque de la Pléiade, Georges Simenon.
Je tiens Simenon pour un grand romancier, le plus grand peut-être, et le plus vraiment romancier que nous ayons eu en littérature française aujourd'hui. André Gide.
D'histoire. Quand il a volontairement cessé d'écrire en 1972, Georges Simenon avait signé et vendu tant de livres que pour beaucoup, il ne méritait pas d'être considéré comme un grand écrivain. Il écrivait trop et trop vite pour être digne d'entrer dans la République des Lettres, d'autant qu'il avait fait son apprentissage dans la presse et le roman populaire, avant de faire fortune dans un genre peu recommandable, le roman policier. Car le Simenon que tout le monde connaît, c'est bien sûr et avant tout le père du commissaire Maigret, qui n'a pas lu ou vu au cinéma ou à la télévision au moins une des 75 enquêtes de ce flic atypique, devenu une figure emblématique de la littérature policière. L'homme grâce auquel on se souvient, et on se souviendra encore longtemps, de Georges Simenon. France Inter, Claude Guillaumin, le 6 septembre 1989.
Bonjour. Pour l'écrivain Léon Ballet, c'était un génie. Pour Jean Richard, beaucoup de ses rôles adaptés à la télévision, c'était le Balzac du XXe siècle. Pour l'écrivain Jean Vautrin, il faisait partie du patrimoine francophone. Trois réactions parmi beaucoup d'autres à l'annonce de la mort de Georges Simenon, qui est décédé à l'âge de 86 ans. Georges Simenon a écrit plus de 500 livres qui ont été tirés dans le monde entier à environ 500 millions d'exemplaires, environ parce qu'on n'en est pas à un million près. Et naturellement, pour tout le monde, il restera à jamais le créateur du commissaire Maigret. Robert Sabatier, est-ce qu'on peut parler d'un romancier populaire au bon sens du terme ?
Mais pour moi, romancier, vous savez, il y a ce qu'on appelle le roman populaire, et puis il y a des romanciers qui sont populaires. C'était, à mon sens, un écrivain, un grand écrivain, mais heureusement, parmi les auteurs de policiers, il y a de grands écrivains.
Jacques Dubois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du centre d'études Georges Simenon à l'université de Liège, la ville où Simenon est né il y a 100 ans, cette année. Alors, on vient d'entendre Robert Sabatier, le jour de la mort de Simenon, reconnaître qu'un auteur de romans policiers pouvait être un grand écrivain. Je suppose que vous partagez ce point de vue, puisque vous êtes le maître d'œuvre et le préfacier avec Benoît Denis de l'édition de 21 romans de Simenon à la Pléiade. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on entend, qu'on voit un romancier de romans policiers entrer dans la Pléiade.
À ma connaissance, oui, en effet, c'est le premier des grands auteurs de polar qui est ainsi consacré par la collection, oui.
Alors, il a beaucoup écrit, on vient de l'entendre. Vous-même, dans ces deux volumes de la Pléiade, vous avez fait entrer 20 romans, je crois, ou 21 romans de Simenon, oui. Dont la moitié, d'ailleurs, sont des romans que Simenon appelait des romans durs, hein, parce qu'il y a deux choses. Il y a les Maigret, bien sûr, 75 Maigret, et puis il y a ce qu'il appelait des romans durs, ceux par lesquels, c'est-à-dire des romans traditionnels, ceux par lesquels il voulait entrer dans la grande littérature.
C'est ça. Pour lui, finalement, le roman policier, qui succédait d'ailleurs à de véritables romans populaires qu'il avait écrit longuement sous des pseudonymes pendant les années 20, le roman policier était une sorte d'étape vers autre chose. Et il disait de cela, c'est ma semi-littérature, si vous voulez. Et puis il en viendra d'autres romans qu'il appellera durs, sans doute parce qu'ils sont d'une extrême intensité en général. Il les appelle d'ailleurs plus volontiers romans de crise. Et je crois que c'est un terme assez bien trouvé. Parce que dans chacun de ces romans, ce sont des romans pas très longs, hein, qui feront 100 pages à peu près chacun, tout à coup un héros est entraîné dans une crise, dans une espèce de drame très violent, très soudain, imprévu. Et c'est toujours un peu ce schéma-là qui revient.
Ah, pas mieux, il y a quelques grands titres popularisés d'ailleurs par le cinéma, hein, comme certains Maigret, oui, il y a La Veuve Coudert, Le Chat, Monsieur Hir. Hein. C'est vraiment... Alors c'est assez curieux parce que c'est quelqu'un qui avait l'ambition d'être un grand écrivain, qui commence, il est né à Liège, donc on le rappelle, en 1903, il arrive à Paris en 1920, tout de suite travaille dans la presse, plutôt à sensation d'ailleurs en partie, et puis alors surtout, j'étais étonné d'apprendre qu'il avait commencé par des contes galants, hein, pour ne pas dire érotiques, écrits dans les années 20, et dont les titres d'ailleurs ne risquaient pas d'entrer dans la Pléiade, hein, je lis « Orgie bourgeoise, défense d'aimer, histoire un pantalon, un falzard chez la colonelle ». C'est étonnant. C'était pour des raisons alimentaires ?
Oui, sans doute. Il écrit à cette époque-là, il écrit de façon frénétique et alors qu'il signe de pseudonyme, il est tout de suite connu à Paris et aux alentours par sa capacité de production qui devient très vite légendaire. Mais ça, c'est à la fois pour... Il disait, c'est mon atelier, je me prépare à faire mieux, mais en même temps, très vite, il gagne beaucoup d'argent. Et c'est très frappant. Et il va vivre d'ailleurs de façon fastueuse.
Et sous le pseudonyme donc, de Georges Sim, hein, au début.
Georges Sim, Christian Brûle, enfin, il y en a une cinquantaine.
Puis là, avec la réputation, vous le disiez, d'écrire tellement vite et tellement de livres, de petits romans à l'époque, qu'il est devenu presque un phénomène de foire. Hein. Je crois que le directeur de Paris Matin, pour lancer son journal, qui était nouveau, a voulu faire un coup de pub et a proposé à Simenon, tout simplement, d'être en public, devant un public, dans une cage de verre, enfermé pendant une semaine, c'est ça, pour écrire un roman.
Ça devait se passer boulevard Saint-Michel. Il l'aurait fait ça en 8 jours, en effet, sous le regard du public et des passants. Et puis, je crois que ce directeur s'est un peu affolé du succès de son idée. Il s'appelait Merle. Mmh. Et il a fait marche arrière. Mais ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que beaucoup, par après, par la suite, ont prétendu avoir vu Simenon écrivant son roman dans la cage de verre, alors qu'il ne s'est rien passé. En fait.
Est-ce que c'est pas ça qui explique un peu, au fond, le mépris qu'auront plus tard certains grands écrivains, disons, mais Simenon, c'est rigolo.
Oui, ça a joué, c'est-à-dire qu'il a toujours été un peu soucieux. C'est un personnage très médiatique, il faut le dire, à une époque où ce terme n'avait pas encore tout son sens. Il fait des coups, il aime bien se faire remarquer, il y a cette liaison avec Joséphine Baker, enfin... Il y a des reportages un peu scandaleux, etc. C'est un homme, alors que physiquement et par tout son comportement, il a quelque chose de petit bourgeois, si vous voulez, mais par ailleurs, il sera toujours un peu ce phénomène. On dira très tôt le phénomène Simenon.
Alors, cela dit, Jacques Dubois, le véritable Simenon, hein, celui que l'on connaît, il apparaît à peu près en 1931 avec un personnage qui va faire sa fortune et celle de son éditeur, Fayard.
Oh, police secours. Ici commissaire Maigret, passez-moi l'état-major.
Tu as des ennuis, qu'est-ce qu'il va pas?
Il a remis ça.
Et rien?
Rien. On a interrogé des dizaines de types, même un boucher. Mais enfin, je crois qu'il est innocent. Alors moi, je me souhaite tromper, c'est encore possible. Après tout, il n'y a peut-être pas que pour les cafetières que j'ai vu le coup d'œil. Oh, je suis fatigué, Louise. Fatigué. Je te jure, ce sera la retraite.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Georges Simenon.
Et c'était la musique de la série télévisée du Maigret, jouée en ce moment à la télévision par Bruno Kremer. Mais précédé, on l'a entendu par Jean Gabin dans Maigret étant un piège. Un des 75 Maigret, Jacques Dubois, qui ont fait la fortune de son auteur. Et qui a été, je crois, le plus traduit, le plus lu dans le monde grâce... Surtout à Maigret.
Sans doute, oui.
Et comment est-ce qu'est né, d'abord, le personnage de Maigret et les premiers Maigret? Dans quel livre apparaissent-ils?
Oui, alors, il y a une espèce de légende qui entoure le personnage et légende que l'écrivain lui-même a fabriqué, au fond. Il nous a fait croire alors qu'il voyageait sur son bateau avec sa femme, sa gouvernante, son chien, etc., il se trouvait en Hollande, il aurait eu une sorte d'illumination. Et tout armé, Jules Maigret serait sorti de sa tête, si vous voulez. Or, apparemment, il n'en est rien, car dans des romans populaires qui ont précédé, fin des années 30, le personnage apparaît déjà. Il n'est pas encore achevé, si vous voulez, mais je prends un roman qui s'appelle Train de nuit, qui est déjà un bon roman policier. Maigret mène l'enquête de bout en bout. Et il a déjà une partie de sa bonhomie, de ses caractères. Mais enfin, il n'y a pas encore toute l'épaisseur que lui donnera, par exemple, le fait qu'il a une femme qui lui mitonne des petits plats, enfin des choses comme ça.
Oui, vrai.
Ça viendra ensuite.
En tout cas, au moment de publier ses premiers Maigret, l'éditeur de Simenon n'y croyait pas lui-même. Écoutez, Simenon racontait comment Fayard a accueilli les premiers manuscrits de Maigret, une archivina de 1955.
Lorsque j'ai eu fini les trois premiers Maigret, je suis allé les donner au père Fayard, qui était alors mon éditeur de romans populaires. Alors il me dit d'un air très très protecteur, « Mon petit Sim, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Seulement, c'est impubliable. » Je dis, « Ah bon ?» Il dit, « Aucun succès possible. D'abord, ce ne sont pas des romans policiers. L'intrigue n'est pas du tout scientifique. Ça ne se suit pas comme une partie d'échecs. Vous ne donnez pas au public exactement les éléments. Il n'y a pas de devinette, il n'y a pas le vrai jeu du roman policier. Deuxièmement, vous prenez un policier tout simplement comme tous les policiers, c'est-à-dire un personnage qui n'a aucune allure. Donc, personne ne s'intéresse à ce petit fonctionnaire. Troisièmement, la plupart de vos drames sont des drames sordides. Il n'y a pas de personnage sympathique et de personnage antipathique, de héros et de vilain. Cinquièmement, il n'y a pas d'amour. Et sixièmement, ça finit presque toujours mal. Eh bien, n'est-il aucun succès possible ? Alors, comme je tendais les bras à la main pour reprendre mes manuscrits, il dit, nous allons essayer quand même. Nous perdrons de l'argent, mais nous allons essayer quand même.
Et Fayard gagnera beaucoup d'argent, hein, malgré ses doutes, Jacques Dubois. C'est vrai que dès le début, les Maigret n'ont rien à voir avec des romans policiers traditionnels.
Non,
les critiques de Fayard sont exactes, en fait.
Oui, c'est bien.
Sauf
vu.
Que ça a marché.
Ce ne sont pas de bons romans policiers parce que c'est déjà autre chose, si vous voulez. Le genre est en train de muter complètement. Et j'aime à dire, par exemple, que aujourd'hui, il y a d'excellents auteurs de romans policiers, et pas seulement en France, dans de nombreux pays. Et beaucoup d'entre eux sont des enfants et des héritiers de Maigret, je crois. Hein.
Pensez à Colombo, par exemple. Enfin, c'est pas
oui,
aujourd'hui, mais
sans doute. Mais
hier, oui.
Je pense, par exemple, à Montalban, le catalan, oui. Ou à Camilleri, le sicilien. J'aurais presque envie de dire, vous savez, c'est à partir du moment où Simenon introduit dans le roman policier la nourriture, le repas, l'importance de la boisson, enfin des choses comme ça, que le roman policier a changé de caractère. Et aujourd'hui, ceux que je viens de citer précisément n'hésitent pas à introduire des recettes de cuisine et à évoquer, dans leur roman, et à évoquer toute une culture, si vous voulez, la culture sicilienne, la culture catalane, dans ce qu'elle a de plus savoureux, en quelque sorte.
Et puis surtout, Maigret, c'est vraiment le anti-héros, vous le dites vous-même.
Oui,
c'est
d'abord
quelqu'un qui a des doutes, qui se plante de temps en temps dans ses enquêtes, qui procède d'ailleurs beaucoup plus par intuition que par déduction. Hein, il marche au pif, si je puis dire.
Mais oui, et c'est culotté d'ailleurs. Hein, il y a des titres comme L'échec de Maigret. Maigret hésite. Donc c'est tout à fait contraire aux lois du genre. Ça, il ne craint pas d'afficher, sinon, que son personnage n'est pas un héros. Enfin, c'est un homme comme tout le monde. C'est un fonctionnaire, en plus. Un peu douillet, comme ça. Un peu cafardeux, aussi. Donc, il est en train de faire du roman policier un véritable roman. Je crois que c'est ça, véritablement, le tournant. Et je dirais même un certain roman réaliste, c'est-à-dire critique de la société. Discrètement, sans doute. Mais vous savez que Maigret, très souvent, s'intéresse aux coupables comme un des êtres réels, enfin, c'est-à-dire des gens qui ont été entraînés à faire ce qu'ils ont fait, à une sorte de passion pour ces gens qui ont flanché, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment...
Ah oui, il a de la compassion hein, pour le coupable, pour la victime. Et puis alors, il s'intéresse énormément, et c'est de là que vient son intuition, au milieu dans lequel il vit, au milieu au pluriel, parce que avec les Maigret, avec les 75 Maigret, on a été partout dans le monde, dans tous les milieux possibles et imaginables.
Tous les arrondissements de Paris, toutes les provinces de France, mais Maigret, on retrouve Maigret à New York, on trouve Maigret ailleurs. Et il y a toujours un peu chez lui, à la fois du sociologue et du psychanalyste, si vous voulez mélanger, hein, du psychanalyste qui traite les gens et qui essaie de les redresser d'une certaine façon, de les aider à sortir de leur malheur. Et puis du sociologue, parce qu'il comprend très bien, il a une capacité à saisir les milieux qui est exceptionnelle.
Vous dites comprendre, Jacques Dubois, parce que je crois que la devise de Simenon et par conséquent de Maigret, c'était comprendre plutôt que juger.
Absolument.
Et d'ailleurs, il est même sévère, souvent, pour la justice. Il est aussi sévère pour les institutions établies, pour le clergé. C'était une espèce de révolté, sinon de révolutionnaire, Simenon.
Oui, révolutionnaire, j'hésiterai à le dire, mais il s'est volontiers positionné, si vous voulez, comme une sorte d'anarchiste. Hein. Par exemple, dans le fait de dire qu'il n'était de nulle part, il a toujours gardé sa nationalité belge, parce que c'était commode, je crois. Ses romans écrits en Suisse, il les situe à la fin, à côté de la date, il est écrit Noland, Nolan. Or, Nolan n'existe pas, ça veut dire aucun pays. Mmh. Hein, il écrit ça nulle part. Et de la même façon, il se veut d'aucune classe sociale. Il aimerait échapper à la condition humaine, d'une certaine façon. Et c'est très étonnant, ça. Il déteste la politique, enfin, ou plutôt les politiciens. Il n'aime pas du tout le général de Gaulle.
Ah bon ?
On ne sait pas trop pourquoi, mais il n'en dit que du mal, à vrai dire.
En tout cas, il intéresse beaucoup ses contemporains, les écrivains des années 30. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
Oui, dans les années 30, Simenon est à la fois, paradoxalement, un écrivain à succès, hein, dont on parle beaucoup, et en même temps, il a la réputation d'être un auteur populaire, d'écrire à la chaîne de vulgaires romans policiers. Jean Paulhan, par exemple, le directeur de la prestigieuse NRF chez Gallimard, eh bien, il n'a que mépris pour lui. Simenon, dit-il, présente un fort curieux phénomène d'inspiration romanesque. Il est frappé d'une idée de roman et se met à vomir. Le lendemain, il écrit, mais le roman est mauvais. Un mépris que Simenon, d'ailleurs, lui rend bien. Calfeutré dans son bureau, je crois que Paulhan n'a jamais pris contact avec la vie. À quel point ai-je dû lui paraître vulgaire ? Alors, l'écrivain Paul Nizan, journaliste à l'Humanité, reconnaît bien, je cite, des dons d'atmosphère à l'auteur des Maigret, l'ignoble et sentimental commissaire Maigret, dit-il. Mais ça ne va plus du tout quand Simenon se pique de faire de la vraie littérature. On s'aperçoit, dit Paul Nizan, on s'aperçoit soudain que M. Simenon était un auteur passable de romans policiers, mais qu'il est fort médiocre, auteur de romans tout court. Heureusement pour lui, Georges Simenon a aussi ses inconditionnels, et pas des moindres. Dans les nouvelles littéraires, par exemple, Georges Charansol écrivait déjà en 1931. De tous les écrivains populaires d'aujourd'hui, Georges Sim, c'était donc son pseudonyme, Georges Sim est le seul sans doute qui ait su s'adapter absolument au rythme de notre époque. Ses œuvres sont brèves, vivantes, vraisemblables. On peut dire, sans crainte de beaucoup se tromper, que ce romancier populaire sera demain un écrivain tout court. Admiration aussi dès 1933 du poète Max Jacob. « Ce qui me plaît en vous, lui écrit-il, c'est l'homme de la foule, cette manière unique de voir l'être dans la fourmilière humaine, qui ne peut venir que d'un très grand esprit. » Robert Brasillach aussi est un grand amateur de Maigret, à qui il donne le titre de Monsieur Bergson du roman policier. Et même quand Simenon décide donc de se lancer dans la vraie littérature, comme il dit, il trouve des supporters, par exemple pour son roman « Le testament de Nadieu » en 37, François Mauriac, salue, je cite, son don de créer des êtres vivants dans une atmosphère vivante. Et bien sûr, il y a surtout André Gide. En 1935, à la demande de Gide, Gallimard organise un cocktail pour lui présenter Simenon. En fait, de cocktail, Gide, intrigué par ce phénomène littéraire, le prend à part dans un bureau et le bombarde de questions sur sa manière d'écrire. Et à partir de ce jour-là, Gide et Simenon correspondront régulièrement par lettres. Vous n'avez pas de lecteur plus attentif et plus épris que moi, lui écrit Gide, qui avoue dévorer les romans de Simenon. Il déclara même être atteint de simenonite aiguë.
Un commentaire sur ces textes, sur ces critiques, Jacques Dubois. Je distingue l'hostilité de Paulhan, bon, ce qui est embêtant, parce que c'est quand même le patron de la NRF, de Gallimard. Comment dirais-je, Simenon rêvait d'être à Gallimard, d'ailleurs il y entrera à Gallimard. Il y a la vie partagée de Nizan, hein, qui reconnaît le talent de l'auteur de policiers, mais qui néglige ou qui méprise, qui refuse au fond à Simenon de pouvoir entrer dans la grande littérature. Et puis alors il y a cette admiration de gens aussi différents que Gide et Brasillach.
Oui, c'est troublant. Et ça a toujours été ainsi, je crois que ça commence très tôt et ça se continue aujourd'hui. Ça vient de ce que probablement Simenon a une conception et impose une conception de la littérature qui n'est pas celle de tous, et il faut l'admettre comme ça. Évidemment, il se trouve que j'ai écrit un livre sur Proust, et souvent on me dit « Mais comment pouvez-vous travailler à la fois sur Proust et sur Simenon ?» Enfin, c'est incompatible. Ça ne me gêne pas trop, mais c'est vrai qu'on peut en effet se dire que, par exemple, Et à première vue, en tout cas, chez Simenon, il y a peu d'exigences d'écriture, de style, si vous voulez. Il s'est efforcé, écrivant vite, il a choisi d'écrire, je dirais, d'une manière assez transparente, comme ça, assez efficace, assez directe. Ça ne peut pas satisfaire les gens qui sont très sensibles au travail de la langue. Mais c'est une littérature à part entière.
Comment expliquer, Jacques Dubois, que vous qui disiez que ce n'est pas un écrivain engagé, ou s'il l'est, c'est plutôt une espèce d'anarchiste, il a eu des ennuis pendant la guerre, ou plutôt au lendemain de la guerre, parce qu'il a continué à écrire, à publier, et surtout à faire tourner ses films pendant la guerre.
Mais ce que j'aperçois le mieux dans toute cette histoire qui est assez embrouillée, c'est que Simenon, c'est toujours... C'est un homme assez paradoxal. Je dirais que c'est un égoïste altruiste, si vous voulez. Il est égoïste quant à sa personne, c'est-à-dire, il s'est toujours comporté comme il l'entendait, insoucieux de ce qui se passait autour de lui. Et par exemple, la guerre, il la traverse comme si les peuples soumis ne souffraient pas, en quelque sorte, et comme s'il n'y avait pas à côté de chez lui des gens qui manquaient de nourriture, enfin des choses comme
mais
ça.
Pourtant, il est très observateur, justement.
Oui,
il va puiser chez les gens.
C'est un homme seul. C'est un homme seul, très, très... Mais altruiste, alors justement, par l'attention qu'il peut porter aux autres, mais qui est une attention distante, et qui est l'attention du grand créateur, du grand romancier. Et voilà, et donc pendant la guerre, il va se comporter, à mon avis, de cette façon extrêmement égoïste. Il va, parce qu'il est toujours très intéressé et soucieux de faire valoir ses droits, vendre les droits d'adaptation de ses Maigret à la Continentale, qui est la seule société cinématographique d'ailleurs encore en activité en France, et qui est
sous
tutelle allemande.
Et qui est allemande, mais d'ailleurs.
Ce n'est pas très sympathique. Il n'est d'ailleurs pas le seul à se compromettre dans cette affaire-là. Ne citons pas d'autres noms, mais il l'a fait, et à mon avis, il l'a fait comme ça, parce qu'il s'en fout d'une certaine manière. Cela dit, moi je ne trouve pas cet épisode très admirable, mais enfin, il n'y a pas de quoi le pendre. Il n'y avait pas de quoi le pendre non plus. Ça ne l'a pas empêché de se tirer et de se retrouver aux États-Unis.
Oui, pendant 5 ans, je crois.
Pendant 10 ans.
10 ans, pardon.
10 ans. 10 ans d'outre-Atlantique. Oui.
Et de continuer donc à y inventer les nombreux personnages.
Oui.
Il y en a 10 000. Et écoutez comment Simenon expliquait comment il inventait ces personnages, une archivina de 1955.
En ce moment-là, j'écris ça, c'est ma seule petite superstition, sur une enveloppe jaune. C'est ma seule petite superstition des grandes enveloppes commerciales jaunes. J'écris le nom, ensuite son âge, son numéro de téléphone, son adresse, son père, l'âge de son père, s'il est mort ou non, sa mère, ses enfants, sa femme, ses amis. Et même souvent, je dessine, comme ça je crayonne un petit plan de sa maison. Parce que je dois savoir si en entrant chez lui, il pousse la porte à gauche ou s'il la porte à droite. Il faut que sa maison existe entièrement dans ma tête. Et ça devient ma maison. Et je me dis, bon, étant donné cet homme, étant donné l'endroit où il habite, le climat dans lequel il est, que peut-il lui arriver qui l'oblige à aller au bout de lui-même? De même que vous poussez quelquefois un scarabée qui marche tout doucement pour voir s'il va se mettre à courir ou bien s'il va s'enterrer. Vous savez exactement la même chose. Ça, c'est le premier chapitre. Et alors, dès ce moment-là, je suis ce personnage-là. Je suis en même temps tous les autres personnages autour de lui. Et à mesure que le roman avance, jour par jour, je vis la vie de mon bonhomme et je crée les autres personnages, j'inscris en cours de route les noms des nouveaux personnages qui interviennent.
C'est intéressant, c'était Simenon expliquant comment il choisissait ses personnages. Il ne fait pas que les choisir ou les inventer, Jacques Dubois. Il partage leur vie, il se met dans leur peau. Vous dites même dans la préface du premier volume de La Pléiade, qui vient de sortir avec des œuvres de Simenon, vous dites qu'il entre à l'époque dans une espèce de transe.
C'est ça.
Quand il écrit un livre.
Oui, les conditions d'écriture qu'il s'est créées et qu'il n'a pas cessé de reproduire tout au long de sa vie sont très étranges. C'est-à-dire que lui qui était un homme finalement assez paisible, travaillant quand il le voulait bien, enfin des choses comme ça, tout à coup, pendant 8-10 jours, c'est variable, mais à peu près cette durée-là, s'enfermait, interdisait qu'on approche, se mettait à boire force café, enfin des choses comme ça, et surtout, créé dans un climat de transe. Il était comme possédé, si vous voulez, et il a volontiers dit que au terme de ce parcours, il avait perdu plusieurs kilos, il était parfois pris de vomissements, il était dans un état de mal-être, et il lui fallait du temps après pour se ressaisir. Et je crois que ce climat de transe se retrouve dans ses personnages et est sensible dans son écriture et dans ses romans.
Ça le dit, c'est normal, ce travail acharné est normal. Il a écrit, vous le rappelez, au total 192 romans à partir de 1930, c'est-à-dire environ 5 par an. Alors c'est extraordinaire parce qu'en 1972, il est en Suisse, après toutes ses pérégrinations, l'émission, et brusquement, il arrête, il décide brutalement d'arrêter. Comment est-ce que cet homme qui écrivait 5 romans par an a pu s'arrêter, et cela pendant 17 ans jusqu'à sa mort en 89?
Oui, il n'a pas donné d'explication vraiment, il a dit voilà, je calais, je n'avais plus rien à dire. En fait, ce qui est quand même troublant, c'est que sa mère est morte peu avant. Et on a l'impression qu'il n'a pas cessé d'écrire durant toute sa vie pour prouver à sa mère qui il était, si vous voulez. Cette mère qui lui a toujours préféré un frère cadet et avec qui il avait des rapports très tendus. Et on n'a pas l'impression que cette écriture, c'était de lui dire, tu vois de quoi je suis capable. Mmh. Elle n'est plus là, il peut s'arrêter.
Sa jeunesse, vous le dites, dont on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas eu le temps, mais était très présente au fond dans son œuvre, même si on ne voit pas en
pleine ligne. C'est un matériau dans lequel il va puiser infatigablement, et c'est le roman Pédigré, hein, qui est le roman autobiographique, qui est un peu le médiateur de tout cela, puisque il suffit de le lire pour voir combien il en a extrait, beaucoup de son imaginaire, en fait.
Et Pédigré, qui se trouve pas, d'ailleurs, dans les deux volumes de
qui n'est pas là, parce qu'il était fort gros, qu'il était un roman un peu à part, j'espère qu'on le ressuscitera un de ces jours. Mais c'est un grand roman, oui.
En tout cas, il faut absolument lire donc les 21 romans que l'on retrouve dans les deux volumes de La Pléiade, hein, dont vous êtes le maître d'œuvre, Jacques Dubois, avec Benoît Denis, donc deux volumes de romans de Simenon publiés donc chez Gallimard, La Pléiade. À lire également l'album Simenon de La Pléiade, signé Pierre Hébeil, et qui est offert pour l'achat de 3 volumes de La Pléiade. Enfin, Simenon, écrire l'homme de Michel Lemoine, publié dans la collection Découverte chez Gallimard. Et puis un Simenon dont on a peu parlé, Simenon, jeune journaliste de Jacques-Charles Lemaire, publié chez Complexe. Vous avez pu entendre un extrait de Maigret étant un piège, de Jean Delannoy, avec Jean Gabin dans le rôle de Maigret. Et puis lundi prochain commence sur France Inter un feuilleton Simenon qui sera diffusé du lundi au vendredi jusqu'au 29 août aux alentours de 15h45, adapté des œuvres de Simenon par Patrick Légibel et réalisé par Christine Bernard-Sugy. Vous pourrez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Patrick Henry et Michel Thomas, documentation Virginie Bloch-Léné, Claire Tesser, Pauline Bougon et Sandra Escamez, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Demain, l'histoire étonnante de l'hymne...